Non seulement ça n'a pas été une rupture aussi forte qu'elle n'apparaît aujourd'hui, mais ça n'a pas été du tout une rupture. Nous sommes victimes de l'anachronisme quand nous disons les papes d'Avignon ont l'impression que du jour au lendemain, les papes sont transférés à Avignon. Non, pas du tout. Ils allaient de ville en ville et pour une raison simple, c'est que Rome était en proie aux troubles et aux turbulences.
Alors cet éloignement de Rome a-t-il été voulu donc par les papes successifs ou a-t-il été imposé par le roi de France de l'époque, Philippe IV le Bel ?
Il n'a pas du tout été voulu par les papes successifs, il était encore moins imposé par la roi de France, Philippe le Bel. Comme il n'arrivait pas à trouver un candidat qui ne soit pas l'otage au moins apparent de l'un ou de l'autre clan, dirons-nous, eh bien on est allé chercher au loin un Gascon. Le pacifique Bertrand de Gault, qui était justement réputé pour son caractère aimable, archevêque de Bordeaux, qui satisfaisait tout le monde. Et l'archevêque de Bordeaux, donc, on lui a envoyé une délégation, il a accepté son élection, et il s'est proposé de venir à Rome. Et puis les cardinaux lui envoyaient des messages pour lui dire quel était l'état de la question. Et comme l'été était fort turbulent, ben ces messages ont dissuadé d'y venir. Mais il voulait toujours revenir à Rome. C'est donc que ça a été une chose casuelle, mais qui jamais n'est partie d'une idée que la papauté allait s'installer à Avignon. Et d'ailleurs, le pape à Avignon, c'était toujours le pape de Rome.
Alors, la papauté en Avignon a-t-elle constitué une évolution majeure de son organisation interne et de ses rapports avec les puissances temporelles, notamment donc la France et l'Empire ?
La papauté d'Avignon s'est constituée avec une administration importante et les papes d'Avignon se sont entourés d'un ensemble de collaborateurs. Et puis tout un ensemble aussi, un pouvoir judiciaire extrêmement important, parce que, alors là aussi, ne faisons pas d'anachronisme, c'était la fameuse collation des bénéfices. On croit rêver en écoutant ça, mais bon, ça a duré des siècles. Et il a fallu beaucoup de temps pour sortir de cette situation dans laquelle les charges dans l'Église étaient équivalentes à des bénéfices.
La présence du pape en Avignon est-elle la seule raison du schisme qui a marqué la fin de cette période, qui constitue l'une des pages les plus noires de l'histoire de l'Église ?
Oui. Cet enchevêtrement, on peut dire, entre le spirituel et le temporel, le fait, nous l'avons évoqué tout à l'heure, que le spirituel était très profondément engoncé dans le temporel, que la collation, si on peut dire, la nomination donc à la responsabilité donc des nominations des évêques, des abbés, pour faire bref, s'accompagnait de revenus substantiels et d'un pouvoir réel dont, disons, les princes de l'époque ne pouvaient pas se désintéresser. Et donc la papauté était devenue un enjeu de pouvoir et ce qui s'est passé par la suite montre que malheureusement les cardinaux y ont été sensibles au sens fort du terme et c'est là l'origine du schisme.
Cette période a-t-elle vraiment constitué une période à part dans l'histoire de la papauté ou bien n'est-ce qu'une parenthèse finalement géographique ?
Ça a été une période singulière, ça n'a pas été une parenthèse géographique. Le pape est l'évêque de Rome et que même quand il séjourne plus ou moins longtemps en dehors de Rome pour des raisons contingentes, c'est toujours le pape de Rome.